Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Coémergence Express.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Coémergence Express. Quelques 8,7 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. L'occasion de faire le point sur l'évolution de l'économie ivoirienne, mais surtout de voir quelles sont les attentes en Côte d'Ivoire sur le plan économique. Et comme chaque mois, nous nous intéressons à la diaspora africaine, mais avec un focus cette fois sur les transferts de la communauté africaine établie à l'étranger. Quel est l'impact économique de ces transferts? Vous aurez la réponse dans quelques minutes. Direction donc la Côte d'Ivoire, où des millions d'électeurs sont actuellement en train de voter afin d'élire leur président de la République. La Côte d'Ivoire, c'est la première économie de la zone UEMOA en Afrique de l'Ouest et le premier producteur mondial de cacao. Quelles sont les attentes économiques des Ivoiriens? Écoutons ce micro-trottoir réalisé à Abidjan.
Quand même, nous, on a vécu quand même, voilà, de 2010, 2011, 2012. Et puis quand on regarde l'évolution du pays, en ce moment-là, vraiment, je pense qu'il a quand même fait la moitié. Il reste encore beaucoup à faire. Voilà. Surtout, bon, moi, je souhaite la paix entre les Ivoiriens.
Quand tu prends l'économie de Côte d'Ivoire, elle est détenue à 95% par les investisseurs étrangers. Les Ivoiriens ne sont pas dans leur économie.
Il faut noter que le gouvernement ivoirien table sur une croissance de près de 7%. En 2026. Et de la Côte d'Ivoire, nous mettons le cap sur Cotonou, au Bénin, pour retrouver notre analyste Idriss Lindjé. Idriss Lindjé, directeur de rédaction de Média Mania. Bonjour à vous, Idriss Lindjé. Alors, quels sont les autres faits marquants de l'actualité africaine de la semaine?
Bonjour Omar Baldé, bonjour à tous les auditeurs de Média 1 Radio. Nous allons repartir pour ce tour de l'actualité économique. Dans le reste de l'Afrique, on commence par le Nigeria, 410 milliards de dollars. C'est le montant que prévoit le gouvernement local pour renforcer le secteur de l'électricité au cours des 35 prochaines années. En Tanzanie, la compagnie nationale Air Tanzania renforce son ancrage en Afrique de l'Ouest et ouvre une desserte à Accra. Elle concurrencera directement Kenya Airways, mais aussi Sky qui assurait à travers certaines connectivités ses lignes entre l'Afrique de l'Ouest et la Tanzanie. Enco Capital, le groupe créé et dirigé par les frères Kontu, fait encore parler de lui après l'annonce de l'intention et même de l'accord pour acquérir les parts de Nedbank dans EcoBank. La firme de private equity a annoncé avoir mobilisé 100 millions de dollars pour prêter en devises à des PME africaines. 10 PME sont ciblées, mais on ne sait pas encore lesquelles. Moneypoint, c'est une fintech basée au Nigeria qui a levé 200 millions de dollars et désormais valorisée à 1 milliard de dollars avec un plan d'expansion, notamment en Grande-Bretagne et particulièrement au Royaume-Uni. Autre actualité, les technologies, une coalition d'opérateurs s'est mobilisée pour permettre qu'on puisse vendre des smartphones adaptés à la 4G à moins de 40 dollars en Afrique. Et enfin, on va sortir avec cette actualité purement marocaine, 15 milliards de dollars pour l'éducation. Évidemment, les Marocains le savent déjà, mais ce que les Marocains ne savent pas, c'est que les 15 milliards représentent le budget de beaucoup de pays en Afrique subsaharienne. À titre d'exemple, le budget de la République démocratique du Congo en 2025 était autour de 20 milliards. Donc, on n'est pas très loin du budget de tout un pays de 120 millions d'habitants. Voilà pour les informations de l'économie dans l'Afrique. À très bientôt pour un autre épisode.
Merci à vous, Idriss Lindjé. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Un plaisir aussi de retrouver Moustapha El Bouri, directeur général de Best Afrique. Comme chaque mois, il nous revient sur des questions qui touchent donc et qui concernent la diaspora africaine. Cette semaine, nous allons parler de l'impact des transferts de fonds de la diaspora africaine. Il faut noter, d'ailleurs Moustapha El Bouri nous le dira, que ces transferts dépassent largement l'aide au développement. Bonjour à vous Moustapha El Bouri, c'est un plaisir de vous retrouver.
Omar, bonjour.
Alors Moustapha El Bouri, première question. Pourquoi les transferts d'argent de la diaspora africaine sont-ils si importants pour les économies du continent?
On parle quand même de sommes qui sont énormes. Hein. C'est plus de 100 milliards de dollars qui sont envoyés chaque année vers le continent africain, selon les chiffres de la Banque mondiale. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus que l'aide publique au développement. Et dans certains cas, c'est même plus que les investissements étrangers directs de certains pays. Bon, c'est vrai que ces fonds sont quand même essentiels pour des millions de familles. Ils servent à payer la scolarité des enfants, les soins médicaux, le logement, tout simplement à assurer ce qu'on appelle la subsistance quotidienne. Mais malheureusement, la majorité de ces envois restent consommés et ne sont pas investis. Donc, en fait, ils améliorent, c'est vrai, le quotidien des familles, mais ne transforment pas l'économie sur le long terme. L'enjeu aujourd'hui, Omar, c'est vraiment de canaliser une partie de ces ressources vers des projets qui sont productifs. Voilà, création de petites entreprises, mettre en place des coopératives agricoles, créer des usines de transformation de produits dans des projets technologiques. En fait, voilà, si on devait résumer, il faudrait transformer cette manne d'argent en véritable capital de développement.
Alors, Moustapha El Bouri, peut-on dire que ces transferts créent une forme de dépendance économique, hein, parce que il y a des économies quand même qui tournent presque quasiment que grâce à ces transferts, surtout dans certaines régions. Je pense notamment à des pays comme le Maroc ou le Sénégal, mais aussi au Mali par exemple, et au Nigeria et en Égypte. Hein, bref, la plupart des économies africaines. Alors, est-ce qu'on peut parler de dépendance économique?
Cette question, Omar, elle est assez complexe en fait, mais en fait elle est essentielle. Je dirais oui, les transferts de la diaspora peuvent, dans certains cas, créer une forme de dépendance économique et sociale. À court terme, cet argent c'est quand même une bénédiction. Hein. Il permet à des familles entières de vivre dignement, d'échapper à la pauvreté, de soigner leurs enfants ou encore de financer leurs études. Mais sur le long terme, quand ces revenus deviennent, je dirais, la principale source de survie, il y a quand même un risque flagrant de déséquilibre. Hein. Bon, après, il faut le dire, certaines familles finissent par attendre chaque mois cet argent venu d'Europe ou d'Amérique. Donc, in fine, cela peut décourager vraiment l'initiative et ralentir ce qu'on appelle la dynamique économique interne. Hein. Du côté des États, je pense qu'il y a aussi une dépendance. Certains gouvernements comptent sur les transferts de la diaspora pour stabiliser leur balance des paiements, au lieu d'essayer de créer des politiques fortes d'emploi ou d'investissement. À côté de ça, il ne faut quand même pas diaboliser la diaspora. Hein. Le problème ne vient pas des transferts eux-mêmes, Omar, mais je pense qu'il vient de l'absence de mécanismes qui devraient être là pour les orienter vers ce qu'on appelle un développement productif. Quoi. Si on crée des outils comme des banques de la diaspora, je pense des fonds d'investissement participatifs ou encore des projets communautaires qui doivent être bien gérés, je pense très sincèrement que ces transferts peuvent devenir un puissant levier d'autonomie économique.
Alors cela dit, Moustapha El Bouri, comment les gouvernements africains peuvent-ils mieux valoriser les ressources de la diaspora africaine?
Les gouvernements africains, Omar, doivent déjà comprendre que la diaspora n'est pas seulement une source d'argent, mais c'est aussi une force vraiment stratégique. Elle représente un réservoir de compétences, un réservoir d'expérience et un réservoir de réseau. Donc pour la valoriser pleinement, il faut vraiment créer d'abord un cadre de confiance. Étant aussi une personne de diaspora, je peux dire vraiment qu'il y a beaucoup de membres de la diaspora qui veulent investir. Mais ils hésitent à cause de beaucoup de choses, de la bureaucratie, du manque de transparence ou de la peur de perdre leur capital. Donc il faut vraiment des politiques claires, donc des projections qui soient juridiques, une fiscalité je dirais qui soit incitative et surtout un accompagnement à l'investissement. Donc on pourrait, je pense qu'il y a des choses à faire. On pourrait créer des fonds d'investissement panafricains qui soient gérés conjointement par les diasporas et les États, pourquoi pas. Ou encore encourager les transferts collectifs des diasporas, par exemple régionales, qui investissent ensemble dans des écoles, des cliniques ou des startups. Pour finir, je dirais qu'il faut vraiment passer d'une logique d'envoi d'argent à une logique de co-développement. L'Afrique ne doit pas seulement recevoir, elle doit collaborer avec ses enfants des diasporas pour bâtir un futur commun.
Merci à vous, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte les diasporas. Au plaisir de vous retrouver, Moustapha El Bouri, dans un mois pour parler de la diaspora africaine. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence Express sur notre site medien.com. Bonne suite de programme sur Medien et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.